Bon, ce matin, Yves, pour introduire toute ta réflexion, ta recherche, enfin, dans ton exposé, j'ai retenu deux mots, enfin, plus que deux mots, mais il y a deux mots qui m'ont frappé. Le premier, c'est utilité. Hein, alors, il intervient dans un syntagme, hein, que tu as décliné, utilité de savoir, utilité de praxéologie, enfin, que décliné, et qui évidemment, quand tu emploies ce mot, me semble-t-il, hein, que j'ai entendu, c'est derrière tout un questionnement de sens. Hein, je veux dire, c'est tout un questionnement de sens. Voilà. Le deuxième mot que j'ai retenu, c'était le mot diffusion. Diffusion de savoir, etc. Ce mot ayant, si tu veux, dans l'économie, moi je dirais plutôt l'économie de ta présentation, au moins ce matin, un rôle important dans la mesure où il te permet d'élargir le champ du didactique et de ne pas le limiter à l'enseignement. Voilà les deux mots que je retiens. Et si je retiens ces deux mots, c'est pour un petit peu, je veux dire, c'est un petit peu pour les deux mots comme entrée, hein, dans la deux mots d'entrée. Alors c'est pour dire que moi, personnellement, pour le situer, pour situer mon entrée à moi, c'est la perspective complètement inverse, si je puis dire, si ça a un sens. Je vais juste dire ça vous aidera peut-être pour quelques-uns à mieux situer. J'ai commencé à travailler dans les Balliereine de Strasbourg en 1969. Et j'ai commencé à y travailler comme psychologue introduit par Pierre Gréco. Voilà. J'insiste sur ceci. Ça va vous aider à mieux comprendre l'entrée. Ce qui m'a frappé très vite, alors à l'IREM, les IREM en 1969-1970, c'était autre chose. Je ne fais pas de nostalgie, c'était vraiment un lieu extraordinaire où étaient véritablement autour de la table, en permanence toute l'année, hein, pas pour quelques réunions comme ça, des universitaires, des matheux de haut niveau international, des enseignants du secondaire, du lycée, du collège, du primaire, venaient aussi des gens d'autres disciplines, linguistes, et on allait vraiment dans les classes extrêmement régulièrement, enfin je veux dire, voilà. J'en dis pas plus et ça va m'introduire directement au changement, à la perspective tout à fait autre. Hein. J'ai retenu les deux mots pour situer la perspective d'entrée. Moi, ce qui m'a frappé d'emblée, c'est. Je vais reprendre une ou deux expressions. Hein. Tu vois, j'essaie d'écouter, que je ne me trompe pas, je l'ai noté. Ça a été l'illusion de naturalité. L'illusion de naturalité concernant l'activité et la démarche mathématique, quelle qu'elle soit. Que vous la demandiez, que vous proposiez une activité au niveau du primaire, que vous proposiez une activité au collège, que ce soit un petit peu d'algèbre, un peu d'arithmétique, un peu de géométrie ou beaucoup plus, moi j'ai été vraiment frappé par l'illusion de naturalité. Et elle était communément partagée. Évidemment par les mathématiciens professionnels, par les enseignants de lycée, mais aussi je la retrouvais chez des enseignants de collège et parfois chez certains instituteurs, pas chez tous, ça dépendait du parcours initial. Et au fond, il s'est passé, tu as évoqué, hein, tu vois, je fais un exposé en miroir, hein. Et tu vois bien, en miroir, ça ne va pas se superposer. Et il s'est passé, j'ai vécu ce que tu as évoqué, qui est revenu plus fréquemment, ces phénomènes d'agression. On me disait, etc. Alors moi, tu parles psychologue. Et Dieu sait ce qu'a pu être témoin que j'étais objet d'agression, qui d'ailleurs ne m'ont fait ni chaud ni froid, sinon dans les premières minutes en colère, et puis après, c'était plus mon problème. J'ai autre chose, il y a autre chose à passer sur mon énergie. Et tout le travail que j'ai fait, du point de vue que je dirais maintenant de sémio-cognitif, est un travail pour déconstruire, je reprends tes expressions, pour déconstruire l'illusion de naturalité concernant une activité mathématique, quelle qu'elle soit, avec ses propres exigences mathématiques. Voilà. Alors, je vais maintenant quitter et prendre autre. Ce à quoi je me suis trouvé confronté en allant vraiment 3 ou 4 fois par semaine, j'ai passé des demi-journées dans les classes, et dans des classes différentes de collège, c'était nouveau collège, pendant des années, en suivant les mêmes élèves sur l'année, parfois sur 2 années de suite, et autres. Ce qui m'a frappé, ça a été vraiment ce que moi je prendrais comme mot, les problèmes de compréhension. Et quand je dis de compréhension, je ne vais pas prendre ça au sens très fort, que dira vous arrivez le matheux, le prof, ah, t'as pas compris, il y a ça derrière, t'as pas compris, il n'a pas vu, c'est pas ça du tout. Le minimum de compréhension qui est requis pour savoir à quoi on joue et qu'est-ce que je peux risquer de faire, avoir un petit moyen de contrôle, même si je ne réussis pas, au moins je progresse. Voyez-vous, je progresse, je ne suis pas, puisqu'on prenait comme, par exemple, je sais pas, vous avez essayé les cours de tennis, j'ai jamais réussi à faire un engagement, vous comprenez, un service. J'ai jamais réussi à mettre la balle, et pourtant Dieu sait si je pourrais bien, à mettre la balle dans le cours. Au bout d'un an de cours, vous comprenez que j'ai abandonné. Voilà. Bon. Alors maintenant, vous allez mieux comprendre. Avec ce background, vous allez mieux comprendre. J'ai écrit 4 pages.
On mettra sur le site.
Oui.
Demain.
J'ai écrit 4 pages, je ne sais pas ça, je ne vais pas vous lire 4 pages, etc. Je vais sortir les quelques idées, mais je voulais comprendre les 3 petites lignes d'introduction. Les 3 petites lignes d'introduction, je lis les 2 premières. L'apprentissage des mathématiques. Je ne dis pas l'enseignement. Je dis l'apprentissage. L'apprentissage des mathématiques soulève des problèmes spécifiques que l'on ne retrouve pas dans les autres disciplines. Vous voyez où j'ai pris comme ça, ça permet de mieux les contrastes, c'est ce qui suscite le mieux la réflexion. Ça, c'est dans le. Je veux dire, c'est dans le. Je crois, oui, c'est dans le. Je ne sais plus si c'est le livre 5 ou 6 de La République de Platon. Le questionnement surgit d'un contraste. Plus le contraste est marqué, plus la question surgit. Et puis, je n'ai pas osé dire ça, j'aurais osé dire, je vais le dire, mais je ne l'écris pas comme ça, je pourrais dire, non, je n'ai jamais dit ça. Après, je pense, 30 ans ou 35 ans de recherche en didactique des maths, la complexité des phénomènes relatifs à la compréhension, je continue le mot compréhension, reste maintenant encore largement sous-estimé. Alors, je vais essayer de donner rapidement, non pas vous présenter mon approche, c'est pas ça, il y a des articles, c'est le problème, vous donner un petit peu la posture, l'entrée, comme tu as fait ce matin, des clés d'entrée. Alors, Le premier problème, enfin si vous voulez, après tout ça, la première question qui s'est venue et qu'on pourrait poser ici, quel type d'observation, parce que je pars, il y a des élèves qui doivent être dans un système, on évaluera après si ça a marché, si ça n'a pas marché, mais quel type d'observation et quelles caractéristiques de connaissances mathématiques, je vais savoir, enfin celui-ci, ça n'a pas une grosse importance. À partir de quel type d'observation et de savoir mathématique peut-on approcher les phénomènes de compréhension justement dans les apprentissages mathématiques? Vous voyez le premier type de question qui est pour moi extrêmement qui a été crucial, il m'a fallu du temps pour bien le dégager. Alors, je dirais, je me suis trouvé en face, et maintenant, je vais dire, de 3 types de difficultés qui pour moi sont très différents. sont extrêmement différentes. Trois types de difficultés. Je n'en vois trois, vous pouvez peut-être en voir quatre ou 100 000. Moi, déjà trois, c'est énorme. Le premier type de difficulté, vous m'arrêterez, je veux dire, je ne veux pas. C'est ce que j'appelle des difficultés plus ou moins transitoires. Alors, les difficultés plus ou moins transitoires, ce sont des difficultés qui peuvent durer des mois. Le transitoire peut durer des mois, peut durer un an. Mais qu'est-ce que c'est ? C'est lié à l'introduction d'un nouveau contenu mathématique, d'un nouvel objet mathématique, ou d'une nouvelle méthode, une nouvelle procédure. C'est ça, bon. Deuxième type de difficulté, je vais aller très vite, ce que j'appelle les difficultés récurrentes. C'est les difficultés que l'on retrouve indépendamment de l'introduction d'un nouvel objet mathématique, mais que l'on retrouve finalement, vous prenez les élèves à 7 ans, 10 ans, 13 ans, 15 ans, vous les retrouvez toujours. Un des lieux classiques, c'est dès que vous donnez des problèmes d'application. C'est ultra connu, donc je ne vais pas insister. Et troisième type de difficulté, c'est ce que j'appelle les difficultés insurmontables. Les difficultés insurmontables et mentalement paralysantes. Les autres ne sont pas mentalement paralysantes. Mentalement paralysantes, ça veut dire, ce sont celles qui sont liées à la démarche mathématique elle-même, dès qu'on explicite une exigence de justification mathématique ou de preuve. Voilà. Alors, par rapport à ça, il y a tout de suite, on voit tout de suite là, les choses importantes. Première question, si on veut apprendre, si on veut rentrer dans les problèmes, finalement, des processus d'apprentissage en mathématiques, avoir, non pas les maîtriser, mais avoir une lumière, quels sont les types de difficultés, quel type de difficulté est plus primordial? Sont-elles liées, sont-elles pas liées, voyez-vous Quel est le plus primordial? Je dois dire, je peux aller très vite, je vais court-circuiter, que les choix, pour des raisons historiques, à mon avis, une histoire, qui ont été faits pendant au moins des années, 70 à 90, pour aller extrêmement... 70 à 90. 1970 à 90 ont été des choix qui ont privilégié les difficultés transitoires, c'est-à-dire des difficultés liées au contenu. Alors que les deux autres types de difficultés, qui sont ce que j'appelle des difficultés, elles ne sont pas liées à un contenu particulier, elles sont transcontenues mathématiques. Quel que soit le type de contenu mathématique que vous preniez, que vous décidiez de mettre en avant, que vous mettiez un objectif, vous allez voir une partie des élèves, et quand je dis une partie, ce n'est pas 20%, buter et s'arrêter. Et alors là, je saute sur déjà là il y a ce que j'appelle un premier choix qui se fait selon ce type de difficulté qu'on va mettre en avant pour travailler. Alors, deuxième type de... Vous voyez, j'en dis pas plus par rapport à finalement qu'est-ce qu'on observe quand on est vraiment avec les élèves et comme ça a été souligné ce matin, pas les élèves sur une séquence, la question des échelles de durée finalement, la question des échelles de durée d'observation, pas la séquence organisée à l'échelle du maître, etc., même pas l'année scolaire comme l'évoquait Alain, mais quand on regarde ça sur plusieurs années. Deuxième, à ma connaissance, quand on rentre actuellement dans le système français, pour les mathématiques, on en prend au moins pour 10 ou 15 ans, qu'on le veuille ou non. On en prend pour 10 ou 15 ans, qu'on le veuille ou non. Deuxième considération, si vous voulez, auquel je me suis trouvé heurté, qui était beaucoup plus longue à expliciter, pour des raisons, c'est ce que j'appellerais la situation épistémologique des mathématiques, la situation épistémologique des mathématiques, qui est atypique, par rapport aux autres domaines de savoir, y compris le domaine des autres sciences. Alors, comment je vais caractériser une situation épistémologique? L'expression n'était pas heureuse, si vous en avez une meilleure, je suis prête à la changer, je ne m'attache pas à ce mot, mais c'est quand même lié finalement à la démarche de connaissance des mathématiques. Et ça se développe. C'est ce qu'on pourrait appeler le mode d'accès aux objets de connaissance. quels sont les moyens d'accès aux objets de connaissance.
Hmm. Ah oui, vous voyez.
4 minutes presque.
Combien ?
4 minutes.
Oui, ça fait rien. Je saute très
bien. Les deux modes d'accès.
Oui, c'était le truc.
Le premier, il y a, si vous voulez. Alors, ça, avant, je vais dire, et c'est ça qui va créer. Pourquoi cette question est importante ? C'est ça qui va créer ce que j'appelle le paradoxe cognitif des maths. Et ce paradoxe cognitif des maths, on ne l'a pas dans les autres domaines de savoir. Parfois, il est évoqué en parlant de caractère abstraction, ça ne veut rien dire. Je suis désolé, dès qu'on parle d'abstraction, pour moi, ça ne veut rien dire. Accessibilité directe ou indirecte, ça veut dire que, accessibilité, je peux mettre, j'ai mes mains, hein. J'ai mes mains, j'ai mes yeux, je peux utiliser mon corps, j'ai mes mains, j'ai mes yeux. Et puis, il y a tous ces instruments, attention, pas n'importe quel instrument, qui sont des instruments qui permettent d'accroître le champ de perception. Alors, télescope, microscope, spectrographe, IRM, tout ce que vous voulez. Hein, tout ce qui a... Et puis après, vous avez le deuxième type d'accessibilité par des représentations sémiotiques, et uniquement par des représentations sémiotiques. Alors, dans la plupart des domaines de savoir, on a les deux, avec priorité, évidemment, aux autres modes. En maths, alors là, on peut soulever énormément de lièvres, énormément de lièvres sur l'entrée par les problèmes pratiques en maths, hein, de la vie quotidienne. Hein, je ne peux pas rentrer, mais derrière, il y a ça, hein, je voudrais attirer, derrière, il y a ça. Vous allez vous trouver pourquoi ça va poser un problème. Pourquoi ça va poser un problème? C'est parce que vous avez une exigence qui devient redoutable en mathématiques. Vous l'avez ailleurs, mais elle n'est pas redoutable ailleurs. C'est l'exigence de ne jamais confondre le contenu d'une représentation avec l'objet représenté. Alors ailleurs, il n'y a pas trop de problèmes. Dès que vous êtes en maths, ça devient redoutable. Parce qu'autant de contenu de représentations différents, et vous avez pu vous en rendre compte pour les nombres et autres, ça risque d'être posé à l'œuvre, autant d'objets différents, et il n'y aura pas les phénomènes de passage. C'est très facile, ça peut paraître abstrait, si j'avais le temps, je vous aurais montré, il y a une photo admirable de Kossuth de 1963, par une revue d'art, qui s'intitule « Une et trois chaises ». J'aurais pu vous présenter d'emblée tout le paradoxe à partir d'une
fois. On la donnera sur Internet.
Voilà. Alors, la question de la modélisation, les deux dernières minutes, je vais dire comme ça, je vous laisserai, la question de la modélisation des processus d'apprentissage en maths, quand on regarde au fond, il y a toujours, elle va dépendre de deux choix. Il y a toujours deux choix. Modélisation d'apprentissage, hein, et compréhension. Le premier choix va porter sur le type de difficulté que l'on va considérer comme le plus central. Je l'ai évoqué précédemment. Le second choix, il est vraiment souvent implicite. Il porte sur la situation épistémologique des mathématiques par rapport à celle des autres domaines de connaissances. Alors, on doit reconnaître, mais là, ça serait très intéressant à faire. Là, il y aura un travail d'histoire qui pourrait être fait avec la richesse des productions qui ont été faites, hein, sur les 30 dernières années. Il y a la tradition psycho-épistémologique qui est héritée de Piaget. N'admet pas, quand vous regardez bien, de situation épistémologique particulière pour la formation des notions fondamentales, parce que c'est ça que Piaget a étudié, que ce soit pour l'expérience physique ou la connaissance mathématique. Ce qui a conduit à, je ne vais pas rentrer, enfin, dans un certain nombre de modélisations. Ou au contraire, vous pouvez prendre, à mon avis, un autre choix, c'est celui que j'ai fait délibérément, je ne l'ai pas fait délibérément, ce sont, avec le temps, ce choix m'a été imposé. Je l'ai fait sans en prendre... véritablement, je ne l'ai pas décidé a priori, c'est pas comme ça, mais je veux dire, on le reconstruit comme ça. Eh bien, on est amené à prendre en compte ce paradoxe cognitif et ce rôle fondamental de la représentation sémiotique. Mais du coup, ça pose la question suivante, je m'arrêterai là-dessus. Quel modèle du fonctionnement cognitif de la pensée humaine, de l'intelligence, quel modèle du fonctionnement cognitif de l'intelligence est requis par la compréhension en mathématiques et par l'apprentissage des mathématiques. Et là, je peux vous dire, dès que vous posez cette question, vous avez des surprises et ça change un certain nombre de regards sur toutes les difficultés observées, sur l'interprétation qui en est faite. Je regarde particulièrement dans les thèses et qui est souvent très discutable. Je ne discute pas les observations, je discute la façon dont elles sont interprétées. Un peu de rigueur. Bon, voilà. J'ai essayé d'indiquer pour moi. Il y avait une troisième partie.
Qui sera dans le papier.
Que je vous dis, la nécessité de prendre en compte trois points de vue sans homogénéiser leurs exigences et leur logique.
Alors, citez-nous.
Point de vue mathématique.
Point de vue maths. Deux.
Point de vue cognitif, oui. Et moi j'avais mis le point de vue pédagogique.
Tu l'appelais pédagogique.
Voilà. Avec sur pédagogique, je mettais tout ce qui prend en compte l'individu concret avec ses aspects de relation et d'interaction.